Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Saint-Roch.
Donc vous êtes une montpelliéraine pur jus.
Bah Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices, amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui concerne chacun de nous, la fin de vie et l'accompagnement nécessaire pour limiter les souffrances et permettre aux personnes concernées, elles-mêmes, ou parce qu'elles font partie de son entourage familial ou de son environnement médical. Comment les patients en fin de vie peuvent-ils bénéficier d'un droit personnel à mourir dans des conditions dignes? Comment les tiers, et plus généralement la société, peuvent-ils exercer leur responsabilité collective sur ce sujet, bien sûr, complexe? Chacun le sait, donc ces questions sont compliquées et n'appellent pas des réponses simples, tant s'entrecroisent les aspects philosophiques ou religieux, sociétaux, médicaux et bien sûr, avant tout, humains. Depuis le 12 mai, l'Assemblée nationale est saisie de deux propositions de loi, l'une sur les soins palliatifs, on expliquera ça, l'autre sur l'aide à mourir. Ils doivent être votés avant la fin du mois, mais on n'en est même pas sûr vu la tournure que prennent les débats. Non pas pour prétendre faire le tour de la complet de la question, mais pour fournir des points de repère à sa compréhension et engendrer la réflexion de chacune et chacun, j'ai invité une personne fortement engagée dans cette problématique. Noël Messina Beretti, merci d'avoir accepté mon invitation. Vous avez été infirmière, notamment à Maison de Haute-Tête et au Centre anticancéreux. À votre retraite, vous avez rejoint en 2019 l'ADMD, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Et depuis décembre 2020, sauf erreur de ma part, vous en êtes la déléguée pour l'Hérault. Et c'est à ce titre donc que vous allez nous expliquer comment se présente cette question et ce que vous y faites. Alors, vous le savez, avant que vous nous parliez de vos activités, abordons brièvement un sujet beaucoup plus léger. Racontez-nous votre Montpellier. Et à votre tour, d'apporter votre part au portrait de la ville, brossé collectivement par mes invités, par petites touches successives, semaine après semaine. Noël Messina Beretti, quels sont les lieux à Montpellier que vous appréciez particulièrement et que vous recommandez à vos amis de passage?
Alors, à Montpellier, quand je suis arrivée en 67, le premier contact, ça a été Palavas-les-Flots, le soir. Les plages à perte de vue et le Pérou, où à l'époque, il y avait de la musique le soir.
Ah oui, des concerts.
C'était pas des concerts, il y avait de la musique classique.
C'était diffusé, d'accord.
Voilà ce qui était diffusé. Donc, c'était quand même étonnant. C'était...
Pas dans les soirs d'été, donc.
Voilà. En été, c'était. Et donc, après, bon, au fur et à mesure, la ville... entre 67 et maintenant, les personnes qui reviendraient ne reconnaîtraient plus. On peut dire que Georges Frêche a beaucoup fait avec Antigone. La ville s'est agrandie et la population, on a plus de 350 000 habitants. Il y a une métropole avec 31 communes. Il y a le quorum. Et je me rappelle on était arrivé par la route de Nîmes. Il y avait des arbres, c'était tranquille.
Ah oui, parce que c'était le bout de l'esplanade.
Et au bout, oui, c'est ça, c'était l'esplanade, la place de l'œuf, on tournait autour, enfin bon. Et donc, Montpellier, oui. Quand je pars de Montpellier et que je reviens, ce qui me réjouit, c'est de voir le Pic Saint-Loup. Pic Saint-Loup,
bah, c'est le point
ça
de
me
repère,
donne l'impression
c'est
de,
le Fujiyama de des Montpellierins.
De revenir chez moi, entre guillemets. Voilà.
Très bien. Alors revenons, madame, je vous remercie, au sujet qui nous amène et donc aux problématiques de la fin de vie. D'abord, pour que les auditeurs trouvent leur repère, qu'est-ce que c'est que l'ADMD, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, quelle est sa raison d'être?
Alors, l'ADMD a été créée en 80 pour défendre les droits des malades, demander une loi sur la fin de vie. L'association est publiée au journal officiel du 6 mai 80. Actuellement, il y a 120 délégations.
Dans les départements.
On a 80 000, oui, on a une délégation par département. Enfin, il y a, je crois, peut-être 11 départements qui sont ce qu'on appelle orphelins, où il n'y a pas de délégués, mais c'est.
D'accord, il y a ce maillage voilà, sur une bonne partie du territoire.
Toute la France, jusqu'en Corse et dans les. Voilà. Et 80 000 adhérents.
Ah oui, quand même, 80 000 adhérents.
80 000
c'est pareil,
adhérents, ouais. Et il y en a à peu près 1965-70 dans l'Hérault.
Très bien.
Donc, le but de l'association est de faire connaître la loi relative à la fin de vie, de la faire respecter et de la faire évoluer. Nous avons une permanence d'écoute. On défend les malades, les droits des personnes malades et en fin de vie.
Personne d'écoute nationale, non ?
Alors, il y a une permanence d'écoute, parce que tout est centralisé à Paris, une permanence d'écoute ou d'entraide, où les adhérents peuvent appeler, et même les non-adhérents.
Vous avez le numéro en tête, madame, là ?
Non, je l'ai sur un papier. Je vous le donnerai. Pas de problème. Donc, il y a une commission soignant, dont je suis membre.
Donc, qui rassemble des personnels de santé impliqués dans cette démarche.
D'accord. Oui, c'est ça. Une commission soignant qui est gérée par la DMD, commission avec des médecins, des infirmières, et nous avons aussi une commission juridique. Donc, ensuite, la DMD représente les usagers du système de santé dans les instances hospitalières et de santé publique. On appelle les représentants des usagers. Elle gère, on a le fichier des directives anticipées, où les adhérents ou les non-adhérents qui se sont renseignés remplissent leurs directives anticipées. Et sont déposées, sont gardées par la DMD.
Donc, je résume, vous direz si je me trompe, les directives anticipées, ça permet à chacun de décider des conditions dans lesquelles sa fin de vie et ses obsèques vont être organisées.
Exactement.
Donc, à charge pour son entourage de respecter ses demandes.
Et de désigner une personne de confiance. Là, on est dans la loi Claeys-Leonetti de 2016. Pour le moment, donc, il y a ce fichier national des directives anticipé. On défend des valeurs d'humanisme, de laïcité, de solidarité et de liberté individuelle. Et on milite pour la légalisation de l'aide active à mourir.
Voilà. Et alors vous-même, donc.
Et on soutient les soins palliatifs.
Les soins palliatifs, nous en allons parler aussi.
Voilà.
C'est très important parce que c'est un peu les deux pieds là, de la même démarche. Alors vous-même, qu'est-ce qui vous a conduit à vous engager
ce qui m'a conduit à m'engager.
Vous avez un parcours qui vous a conduit à vous pencher sur ces questions.
J'étais infirmière pendant une quarantaine d'années, à la retraite, donc je me suis adressée aux délégués qui s'occupaient de la DMD. Et je suis déléguée depuis 2020. En fait, pendant ma carrière, j'ai travaillé aussi, j'ai participé à un groupe de psycho-oncologie sur Montpellier pendant une quinzaine d'années. J'ai un diplôme universitaire de soins palliatifs et j'ai travaillé en chirurgie, j'ai travaillé dans des...
Donc cet engagement, c'est un peu la résultante ou la suite de votre parcours professionnel.
Exactement.
D'accord.
Exactement.
Très bien. Alors, vous l'avez fait allusion, mais on va y venir, la loi dite Claeys-Leonetti. Alors, pour que les auditeurs sachent où nous en sommes en France, cette loi dont votée en 2016, sur l'accompagnement de la fin de vie. Mmh. Alors, quels sont les progrès qui ont été accomplis grâce à cette loi et quelles sont les insuffisances qui appellent un certain nombre de personnes, dont vous, à dire qu'il faut aller plus loin. Alors, les progrès de la loi de 2016.
La loi Claeys-Leonetti, on fait directive anticipée, personne de confiance. La pierre d'achoppement, en fait, c'est la sédation profonde et continue. Quand un malade arrive, c'est dans le court terme, c'est-à-dire quelques jours à quelques heures, à partir du moment-là.
À la toute fin de vie.
À la toute fin de vie. Quand le médecin a décidé que le patient était en fin de vie, on pose ce qu'on appelle la sédation profonde et continue, c'est-à-dire arrêt de l'hydratation, arrêt de l'alimentation, et on pose la sédation profonde et continue.
Donc c'est un produit qui est absorbé à ce moment-là.
Alors, dans la loi, pour que ce soit... le problème, c'est que cette sédation profonde et continue peut durer plusieurs jours. Parce que dans la loi, il est écrit que ça doit endormir, mais pas tuer, mais pas faire mourir.
Ça ne précipite pas la
fin de vie.
Ça l'accompagne, on peut le résumer comme ça.
On va dire que les patients, quand ça dure trop longtemps, effectivement, puisqu'ils ne sont pas hydratés, pas alimentés, ils vont se mettre en insuffisance rénale, le potassium va monter, ils vont faire un arrêt cardiaque. Donc, comme mort douce, on peut... Ouais. Franchement, on peut rêver d'autre chose. Donc, les médecins sont, comment dire, coincés par ce terme « endormir voilà. » et « mais pas faire mourir ».
D'accord. Donc, ça pose une limite. Hein,
Et c'est le court terme. Ouais. C'est-à-dire que ça ne s'adresse pas à toutes les maladies neurodégénératives, maladie de Charcot, maladie Charcot, sclérose en plaques et tout ça.
D'accord. Donc, on a pu mesurer comment cette loi a été mise en œuvre, puisque moi, depuis 9 ans qu'elle est en exercice. Et ça a donc fait apparaître, je dirais, à la fois bon, les progrès que vous avez évoqués, les progrès relatifs, mais également bon, des insuffisances, des faiblesses qu'il s'agissait de traiter.
Oui, et il y a les directives anticipées de la personne de confiance. Les directives anticipées doivent être consultées par le médecin, mais si c'est par exemple dans l'urgence, il ne va pas les regarder. Vous faites un AVC, même si vous avez demandé à ne pas être réanimé, le médecin va réanimer.
Parce que c'est sa responsabilité, voilà, son travail habituel,
bien sûr. C'est dans le texte.
Et c'est dans le texte, tu
voilà.
Plus es, quoi.
Et après, la personne de confiance que la personne désigne et qui, elle, va intervenir au moment où la personne ne peut plus s'exprimer.
Elle-même.
Et c'est la personne de confiance qui va dire...
D'accord. Qui prend le relais.
Qui va dire au médecin.
Voilà.
Et le médecin consulte la personne de confiance qui va dire ce que le patient veut.
D'accord. Alors, cette personne de confiance,
elle
s'appuie sur les directives anticipées. Et quand il n'y a pas une directive anticipée, qu'est-ce qui se passe?
La personne de confiance, elle a normalement accès au dossier médical. Ouais. Dans les directives anticipées de la DMD, c'est bien précisé dans un alinéa au-dessus de la case personne de confiance.
Ouais.
Sinon, la personne de confiance, le patient doit faire un courrier à la personne de confiance pour qu'il puisse accéder à son dossier.
C'est ça. Donc, il délègue son pouvoir d'accéder à son propre dossier à cette personne de confiance choisie dans son entourage.
Et la personne de confiance peut être quelqu'un de la famille. Voilà. Et le problème qu'il y a eu pour Vincent Lambert, c'est qu'il avait dit à son épouse que s'il avait un accident, il ne voulait pas de réanimation. Et le problème, c'est qu'il n'avait pas fait ses directives anticipées.
D'accord.
Donc, on explique aux personnes, surtout, de faire les directives anticipées, désigner une personne de confiance, puisque pour le moment, on est toujours dans la loi Claeys-Leonetti de 2016.
Alors, je pensais bien de le rappeler, parce que moi, j'ai entendu parler de ça par un ami qui avait fait ça à peu près de mon âge. C'est des directives anticipées. Je suis allé, on trouve des informations, des modèles, ou en tout cas des questionnaires qui permettent de répondre. Pour tout vous dire, je ne l'ai pas fait.
Je vous ai porté celui de la DMD.
Je ne l'ai pas fait. J'ai 77 ans, il faudrait que je remplisse cette case. Je dis ça aux auditeurs parce qu'il y a un petit pas même psychologique à faire, mais en gros, je trouve que cette formule a un côté rassurant parce qu'on détermine soi-même, quand on a pleine conscience, les conditions dans lesquelles sa fin de vie va être traitée.
Exactement. Et c'est quelque chose d'important. La personne de confiance, elle s'engage à quelque chose de très important. C'est-à-dire porter la parole du patient que tu ne pourras plus s'exprimer.
Ouais.
Voilà. Et tout le monde devrait le faire.
Ouais. Voilà. Parce que c'est une démarche qui n'est pas généralisée, mais qui permettrait... De constituer une espèce de socle, un point d'appui,
oui.
Un traitement plus général de la fin de vie dont nous allons parler.
Voilà. Et on a des jeunes à la DMD. La DMD, les jeunes, c'est jusqu'à 36 ans, qui font en été tout un tour de France avec le bus et qui expliquent aux personnes les directives anticipées. Alors, normalement, ils devraient venir à Montpellier au mois de juillet, le 28 juillet.
Dans la saison estivale, donc, d'accord.
Pendant la saison estivale. Ils font ça pendant un mois. Ils vont de ville en ville.
Alors, on a vu un peu cette espèce de préalable. Quelle est la situation? Alors, il y a un an, l'opinion des Français était claire. À ma connaissance, il n'y a pas eu d'études solides depuis. Une étude de l'IFOM a montré que 92% des personnes interrogées étaient favorables au recours à l'euthanasie, à l'aide à mourir.
Oui,
55% ont dit oui, absolument. Et 37% plus modérés dans certains cas, c'est-à-dire l'autorisation donnée au médecin de mettre fin sans souffrance à la vie de ces personnes atteintes de maladies insupportables et incurables, et si elles le demandent. Donc ça, c'est l'état de l'opinion, et on va voir, on va en tout cas l'évoquer, que dans la société politique, c'est pas, ou chez les médecins, la situation n'est pas identique. Le même sondage indiquait la même position sur l'autre volet, le suicide assisté, c'est-à-dire l'autorisation pour les personnes souffrant de maladies insupportables et incurables de prendre un produit létal, c'est-à-dire mortel, en présence d'un médecin. 89% approuvaient cette méthode, 59% majoritairement tout à fait, et 37% plutôt. Donc ça, c'est, me semble-t-il, d'une manière massive et claire, avec un institut qui fait solidement son travail, l'attente des Français.
Voilà. Depuis des années, il y a plus de 80% des Français qui demandent une aide active à mourir. L'aide active à mourir, c'est-à-dire euthanasie, ce qu'on demande à la DMD, et soins palliatifs, puisqu'on soutient les soins palliatifs. Mais est-ce qu'on part sur les soins palliatifs ou est-ce que...
Oui, on peut.
Donc, l'ADMD soutient les soins palliatifs, milite pour un accès sur tout le territoire. Cependant, tous les rapports de missions parlementaires concluent au manque de moyens et à une égalité notable, puisque 40% des soins palliatifs sont situés en Île-de-France, c'est-à-dire que 22 départements n'y ont pas accès, enfin 21 maintenant, je crois, n'y ont pas accès, et en fait, il y a 7500 lits qui sont dédiés à cette prise en charge, mais dans les 7500 lits, il y a les lits dont je vous parlais, qu'on appelle lits identifiés, qui sont des lits identifiés de soins palliatifs.
Réservés aux soins palliatifs.
Réservés, mais où l'infirmière va avoir à s'occuper des autres patients. Et il y a des équipes mobiles aussi. Alors, les équipes mobiles, il y en a 420 en 2021. À Montpellier, il y a 6 lits de soins palliatifs, identifiés soins palliatifs à l'hôpital, et il y a 12 lits à la clinique du Mas du Rocher.
12 et 6, 18, c'est probablement sensiblement inférieur aux besoins.
C'est tout à fait inférieur aux besoins. Alors, les soins palliatifs, ce qu'on peut dire, c'est des soins actifs continus délivrés par une équipe pluridisciplinaire dans une approche globale de la personne atteinte d'une maladie grave. L'objectif est d'accompagner la personne jusqu'à la fin de sa vie. Mais on peut dire aussi qu'en soins palliatifs, il y a des douleurs qui ne sont pas calmées. Il y a des douleurs qui sont réfractaires à tous les traitements. Donc, il y a une limite à ces soins palliatifs. C'est pour ça, justement, que les gens, la population, si elle est en demande d'une aide active à mourir, c'est que les personnes ont bien compris que le soin palliatif, parce que chacun, vous avez des personnes qui vont toujours, il y a toujours quelqu'un qui a un exemple de son père, de son frère, le maire de Béziers disait, il m'a dit l'an dernier au forum des associations que lui-même avait aidé par le biais d'un médecin qu'il connaissait dans les années 80, son frère qui avait une maladie de Charcot. Il est absolument indispensable que cette loi change, que la loi évolue.
Que les
citoyens soient écoutés. On est dans un pays laïque avec des citoyens qui ont le droit de pouvoir choisir leur fin de vie.
Donc ça, c'est le premier grand volet soins palliatifs. Donc ce volet a franchi un premier pas puisqu'elle a été approuvée à l'unanimité par la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Il vient en débat comme un autre volet qu'on va aborder dans les semaines qui viennent avec une vote des deux lois qui serait faite conjointement, normalement, le 29 mai à la fin du mois.
Et on peut noter que la Cour européenne des droits de l'homme a quand même réaffirmé à plusieurs reprises le droit à l'autonomie individuelle, même si ce droit engendre une atteinte à l'intégrité physique ou psychique. Alors, on va voir les opposants qui vont nous dire « La vie doit être accompagnée jusqu'au bout », ce que j'ai entendu quand je suis allée à Midi Libre. « La vie doit être accompagnée jusqu'au bout, quelles que soient les souffrances. » Et donc, on est là pour calmer les personnes. Mais...
Alors, on va voler. Donc, on a bien vu que c'est le deuxième volet. Bon, l'aide à mourir, bon, est bien sûr le sujet le plus délicat, puisque c'est autour de ça que beaucoup d'opinions se présentent ou s'affrontent. Alors, cette proposition de loi, on va voir comment elle évolue dans un débat à l'Assemblée qui n'est pas bien loin d'être arrivé à son terme, dont on ne connaît pas l'issue, donc on ne va pas regarder dans le détail, mais qu'est-ce qui, à votre avis, est l'aspect le plus décisif calé sur l'aide à mourir par rapport à la situation actuelle dont on a vu les insuffisantes? Quel est l'enjeu principal, quoi? Sur quoi la NDMD et peut-être les citoyens autour de vous, côté de vous, peuvent se mobiliser, notamment par exemple interpellant leurs députés?
Alors, on a dit que la NDMD demandait la dépénalisation de l'euthanasie, c'est-à-dire injection par un tiers d'un produit létal, le médecin ou l'infirmier sous le contrôle du médecin, et le suicide assisté, c'est-à-dire le fait de donner à une personne, comme ce qui se fait en Suisse depuis 1945, le produit qu'il va boire ou
absorber par injection.
Ou par injection. Mais il faut que ce soit le patient qui prenne, il n'est pas aidé, qui prenne lui-même le produit ou qui ouvre la
Donc, il prend sa décision, ça suppose qu'il en ait la capacité.
Au moment, il faut avoir un consentement libre et éclairé.
Bien sûr. Donc, il faut que la personne dispose des facultés mentales, bien sûr.
Exactement. Les maladies d'Alzheimer ne rentrent pas Alors, en France aussi, il faut quand même aussi dire que la France détient le record du suicide de personnes âgées et que si on arrivait à avoir l'aide à mourir, il y a un phénomène qui existe dans les pays que les Néerlandais connaissent bien, Belgique, Pays-Bas, etc., qu'on appelle le phénomène de la porte de sortie. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils ont... Si les souffrances sont insupportables, psychiques, physiques, ils auront la possibilité.
Voilà. Il y a une réponse, une solution à cette situation.
Toujours avec
pour
un
le coup,
encadrement.
Fréquente.
Toujours avec un encadrement de la loi, avec une maladie grave et incurable, avec des souffrances inapaisables.
Donc ça, on voit comment ça se présente et où bien sûr là, j'allais dire les questions de fond vont être abordées probablement dans les jours et semaines qui viennent à l'Assemblée nationale puis au Sénat puisqu'il faut que le texte soit aussi voté par le Sénat où je pense la configuration politique est probablement plus complexe. Alors, le texte dit permettez aux malades souffrant d'une infection grave et incurable qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale de recevoir, vous l'avez dit, ou de s'administrer une substance légale. Il permet le recours à un tiers pour accomplir le geste ou l'administration du produit par le malade lui-même. On est dans ces cas de figure avec, je dirais, plusieurs hypothèses, plusieurs réponses au traitement d'une fin de vie digne pour ces personnes. Alors, si vous imaginez que ça vous arrive dans les contacts que vous avez, les permanences, les personnes que vous rencontrez à résumer en quelques mots les arguments pour convaincre ces personnes qu'il faut un dispositif solide et équilibré, là, vous l'avez un peu dit, mais je veux dire, avec les mots simples que vous employez, comme vous l'avez fait il y a quelques minutes, comment il faut faire pour convaincre les gens qui sont un peu mal à l'aise, parce que le sujet lui-même, bon, on n'y va pas dans l'enthousiasme.
Donc... Non, mais voilà, c'est ce qu'on dit aux personnes. De toute façon, on sait tous qu'on va mourir. Autant mourir d'une façon en choisissant notre fin de vie et en étant... Les personnes auxquelles je m'adresse, ils ont tout à fait compris. Ce n'est pas des personnes âgées qui n'ont pas leur conscience. J'étais à Béziers pour expliquer des directives anticipées. Les personnes sont tout à fait conscientes de ce qu'ils ont, voilà. Alors, il y a un député qui disait que les soins palliatifs sont en régression en Europe, alors que ce texte démontre au contraire le contraire, c'est-à-dire qu'en Belgique et aux Pays-Bas, ils sont au top 5 des pays avec des soins palliatifs, puisqu'en Belgique, quand ils ont, en 2002, quand ils ont créé la loi, ils ont aussi créé les soins palliatifs.
Donc, voilà, pour avoir une offre équilibrée.
De problèmes. Et il y a aussi la directrice du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie qui dit ce n'est pas parce qu'il y a aucune donnée qui permet d'affirmer que l'aide à mourir affaiblit la demande en soins palliatifs. Et les cinq critères qui sont posés dans la proposition de loi, c'est Être âgé, c'est quand même des critères.
Oui, rappelez-les parce que c'est quand même le point central du texte.
C'est le problème. C'est restrictif, c'est être âgé d'au moins 18 ans, être français ou résident en France, atteint d'une affection grave et incurable et qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale, cette dernière provoquant une souffrance physique ou psychologique réfractaire au traitement, et être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée.
Ça, c'est les cinq critères qui limitent le champ d'action de la loi, du projet de la proposition de loi, telle qu'elle est à ce jour en chantier. Quoi.
Voilà.
Alors, il nous reste peu de temps, mais
oui.
Vous m'avez proposé, je trouve que c'est une excellente idée, de donner un éclairage, mais il faudra le faire de manière sélective, sur ce qui se passe à l'étranger.
Oui, ce qui est d'abord important aussi de dire, les termes phase avancée ou terminale, parce que le Comité consultatif national d'éthique, en septembre 2022, avait proposé court terme et moyen terme.
Oui.
Or, l'HAS a...
La Haute Autorité de Santé a été consultée à dire qu'on ne pouvait pas le dire de manière scientifiquement claire.
On ne peut pas.
On ne peut pas déterminer le nombre de jours, de semaines.
Et comme le patient est au cœur de la décision, il est seul apte à définir ce qu'il veut.
Au nom du droit dont il dispose.
Personne ne peut décider à sa place. C'est le patient qui va expliquer.
Alors, il nous reste 3 minutes. Alors, ce que je vous propose, c'est dans les exemples à l'étranger suffisamment installés et anciens, parce qu'on peut en tirer des leçons. Quel est le pays où le dispositif mis en place vous paraît le plus intéressant et que constitue donc un point de repère, ce n'est un exemple absolu.
L'euthanasie, c'est en Belgique, depuis 2002. Ils ont fait les soins palliatifs en même temps. En Espagne, ça a été voté en 2021. Au Luxembourg, en 2009. Aux Pays-Bas, en 2001. Et l'assistance au suicide, c'est l'Autriche, en 2022. Eux, ils ont mis un critère à 6 mois. C'est-à-dire au lieu de mettre, au moyen terme.
Entre le moment où je le demande et si ça peut être prendre effet que 6 mois plus tard, c'est ça?
Voilà. C'est-à-dire que c'est comme on avait mis le court terme ou le moyen terme. Oui, le moyen terme, on estime que c'est à 6 mois.
Donc ça donne ce délai, du coup.
Voilà, c'est ça. Mais c'est le seul pays qui a fait ça. Les autres n'ont pas mis de temps. L'Allemagne en 2020, l'Italie en 2019 et la Suisse en 1942.
Oui, c'est le pays, on le sait.
Donc ici, les adhérents ou les gens qui nous posent des questions, l'Espagne, elle n'est ouverte qu'aux patients espagnols. Et aux Français qui y résident. Et la Suisse, évidemment, ça a un coût. Il faut compter.
C'est pas à la portée de beaucoup de personnes, bien évidemment.
Entre les gens qui ont les moyens, moi j'ai des adhérents qui ont pu y partir, il faut compter entre 10 000 et 12 000 euros près.
Voilà. Et puis il y a les frontaliers de la Belgique qui peuvent bénéficier du système belge, donc sous condition.
Les fameuses ZOAST qui sont des zones. Après, le problème c'est aller en Belgique en venant d'ici.
Oui,
c'est
un peu compliqué pour les patients. Très compliqué aussi. Voilà. Très bien. Donc, on a vu ce panorama.
On a un peu balayé.
Encore une fois, on n'avait pas l'ambition, vous et moi, d'apporter réponse à tout, mais encore une fois, de donner des repères. Alors, si vous pouvez donner peut-être le site internet de la DMD, si vous voulez bien, parce qu'il y a beaucoup d'informations, bien entendu, les textes de propositions de loi que l'AND a mises sur la table du débat public, notamment, des informations aussi sur les soins palliatifs que nos auditeurs peuvent trouver.
Alors, à la DMD, tout le monde peut accéder au site, vous tapez ADMD et vous avez nous rencontrer, vous avez l'écoute. Alors là, ADMD, permanence écoute, c'est le 01, je vous le dis le numéro.
Allez-y, madame.
01 48 00 04 92.
Très bien.
Permanence d'écoute de l'ADMD.
Voilà.
Le fichier national des directives anticipées, pour mettre les directives anticipées, personne de confiance.
Et puis pour plus d'informations sur l'actualité.
Oui, ils peuvent aussi appeler. Et dans l'Hérault, on fait des cinémas,
Donc, dans le site, on trouvera les coordonnées de l'ANDMD Hérault pour vous joindre.
Voilà.
Avoir connaissance des permanences que vous tenez à Béziers et à Montpellier, notamment.
Et à 7.
Et à 7, pour ceux des auditeurs qui voudraient en savoir plus long.
Voilà.
Je vous remercie beaucoup, madame, nous avoir informés. Et c'est très important, mais ça s'entend à la radio, avec votre sourire, madame.
Alors,
je vous remercie.
Je finirai juste par la phrase de Sénèque que le sénateur Caillavé avait,
avait cité... Saint Augustin, qui est un des piliers de la défense.
Penser la mort, c'est penser la liberté.
Très bien. Eh bien, nous terminerons sur cette pensée qui va activer la, la réflexion de nos auditrices et nos auditeurs. Je vous remercie, madame. Bonne
Merci
journée.
Merci beaucoup, monsieur.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Serroc.
Donc vous êtes une montpelliéraine, une pure jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Dudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.